Bonjour Dina.
Bonjour Lucie, merci de me donner la parole.
C'est un honneur pour moi, vraiment une grande gratitude que vous ayez accepté, Dina. Merci beaucoup.
Alors, de quoi on va parler? J'ai une petite idée, hein.
Pour les gens qui vont écouter ou qui vous regarderont, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît, Dina?
D'accord. Donc moi, je suis après une première vie professionnelle où j'ai été 20 ans en entreprise. Je me suis formée donc à 45 ans à l'accompagnement, au coaching, et aujourd'hui, j'accompagne des hommes et des femmes dans leur vie au travail, à trouver leur place, leur juste place, à voilà, à ce qu'ils soient bien. On passe quand même beaucoup de temps au travail, donc voilà, est-ce qu'ils soient bien là où ils sont, à lever les dysfonctionnements dans les équipes, voilà. Globalement, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et puis, j'accompagne aussi, j'ai choisi aussi, enfin, parce que je suis une coach un peu militante, j'aime bien que le coaching soit pas que pour les patrons dans les entreprises. Donc, depuis que je suis coach, donc ça fait plus de 10 ans, j'aime bien mettre ma pratique au service des jeunes, dans les écoles, dans les collèges et les lycées. Donc, j'accompagne, je vais dans les écoles et j'accompagne les projets, l'estime de soi. Enfin, voilà, j'essaye de faire en sorte que les jeunes se refascinent un peu par leur vie, là où ils sont. Voilà.
Merci
Donc,
infiniment,
voilà. Donc,
Dina.
je me partage entre des cadres en entreprise et des jeunes dans les écoles qui cherchent leur voie ou qui cherchent le sens. Il y en a beaucoup qui ont perdu le sens de pourquoi ils font des études, qu'est-ce qu'ils font là, ça leur paraît long. Une année, pour eux, c'est 10 ans. Donc, c'est pas facile. Donc, voilà. Donc, j'essaye d'aller les voir et d'essayer de porter un regard un peu différent sur eux et voilà, de les aider à s'accrocher en trouvant des projets intéressants pour eux.
Merci beaucoup. Donc la question phare de cet entretien est comment c'était à l'école pour toi, Dina?
Alors, grande question. Alors, comment dire? Parce que l'école, ça n'a pas été facile pour moi. C'est pas un hasard si mes pas m'ont guidée tout naturellement vers les écoles quand je me suis formée à l'accompagnement, en fait. Parce que quand je me suis formée à l'accompagnement, j'avais subitement des outils, une posture et des outils qui allaient aider les gens. Donc, avant, j'ai été manager et j'avais l'impression d'être déjà un peu celle qui aidait mes collaborateurs, etc. Et c'était déjà pas mal parce que j'aimais ça. Mais quand je me suis formée et surtout quand j'ai rencontré les idées narratives, qui est ma pratique, la pratique narrative, qui est une pratique très dignifiante, très regradante, où on va vraiment s'intéresser à ce que la personne a plutôt que ce qu'elle n'a pas, je sais pas, je me suis dit, ça m'a donné envie de retourner dans les écoles s'il y a vraiment un public qui se sent parfois dégradé au sein du système scolaire, c'est vraiment certains enfants et même certains profs, certains parents. Enfin, comment regrader certaines populations? Donc, je crois que moi, je suis une regradeuse. Donc, aussi bien en entreprise que dans les écoles. Et donc, voilà. Donc, j'ai eu envie d'accompagner ces jeunes. Alors, quelle est mon histoire, avec moi-même, avec l'école? Donc, c'est pas un hasard si mes pas m'ont guidée vers les écoles. Parce que, comment dire, je pense qu'avant de rentrer à l'école, j'étais normale. Non, mais je dis ça parce que ça paraît un peu énorme, mais j'ai 6 frères et sœurs, j'ai une famille à peu près normale, enfin, je me sentais normale dans ma famille, enfin, pas différente en tout cas. Normale, ça veut dire pas différente en fait. Et quand j'ai commencé à rentrer à l'école très très tôt, on m'a renvoyé que j'étais pas comme les autres en fait. Personne me l'avait dit avant, en fait. Je sais pas, on m'a renvoyé, alors très très tôt, hein, pas en maternelle, j'imagine, mais très tôt, au moment des apprentissages au CP, etc., où je devais peut-être être un peu plus lente que les autres, ou je sais pas. Mais très tôt, on m'a renvoyé que bah, j'avais des problèmes d'apprentissage, que j'étais pas au niveau, que j'étais, je crois même qu'une fois, on m'a dit apathique. Je savais pas ce que ça voulait dire.
D'accord.
Voilà. Donc je mettais la première année. Après la deuxième année, on avait dû dire ça à la prof d'après. Donc Ben, elle m'attendait déjà en sachant que j'étais un peu comme ça, etc. Ce qui fait que je me suis enfermée dans cette histoire. Mais quand je rentrais chez moi, je redevenais normale. C'est-à-dire que chez moi, j'avais personne me disait rien. Mais il y a qu'à l'école où on me disait, où j'entendais des choses comme ça. Donc, ce qui fait que, enfin, moi, je crois beaucoup qu'au regard qu'on porte sur un individu forge son identité. On me regarde comme quelqu'un de pas normal. Je deviens quelqu'un de pas normal. En fait, quand je dis pas normal, qu'il y a des problèmes, en fait. Donc, ce qui fait qu'au final, je crois que j'avais vraiment des problèmes, c'est-à-dire que bah, je me conformais à l'image qu'on donnait de moi.
D'accord.
Voyez? Donc, c'est un peu ça l'idée, ce qui fait que mon démarrage a été lamentable, en fait, catastrophique. Et ce qui fait que j'ai intériorisé une image extérieure qu'on me donnait, ce qui fait que je suis devenue ça, ce qui fait que mon parcours scolaire a été un peu catastrophique, ce qui fait que je suis sortie, enfin, après la CM2. On m'a envoyé en classe. Alors aujourd'hui c'est les SECPA, mais voilà, on appelle ça les classes de SECPA. Moi ça n'existait pas à mon époque, c'était les classes de transition. Donc on m'a envoyé en sixième de transition, cinquième de transition dans les collèges. C'était des classes à part où on mettait tous ceux qui avaient des difficultés. Et au bout de 2 ans, on nous préparait un métier. Donc moi on m'a dit qu'est-ce que tu veux faire? Alors moi je savais pas. On m'a dit bah t'es une fille, donc les filles, on les mettait plutôt secrétaires, les garçons comptables ou vraiment dans la mécanique ou autre. Donc voilà, donc je suis sortie très tôt du système scolaire avec un CAP de sténodactylo. Voilà. Donc voilà mon parcours d'école en fait. Donc, mais je pense que réellement, alors donc bien sûr, j'ai commencé à travailler avec ce petit diplôme, avec ce CAP. Donc voilà, donc j'ai commencé au plus bas niveau. Je crois même que j'étais la secrétaire de la secrétaire. C'est pour vous dire. La secrétaire avait une secrétaire, c'était moi. Donc dans un domaine qui était la publicité, c'était un hasard. J'avais postulé à plusieurs annonces et voilà. Et là, à nouveau, je rentrais dans un domaine où j'ai eu de la chance puisque on me renvoyait plus cette image. Enfin, plus personne disait que j'étais bizarre, enfin que j'étais pas comme tout le monde. J'étais assez douée en sténodactylo en plus, parce que c'était là, quand je me suis formée à la sténodactylo, je me souviens que c'est la première fois où une prof m'a dit que, enfin, me renvoyait que j'étais douée, parce que comme j'apprenais avec des signes et en tapant à la machine, etc., je tapais super vite et je prenais très bien en sténo, en fait. Donc, elle me montrait en modèle, en fait. Et là, j'ai dit, tiens, pour une fois qu'on me valorise à l'école.
Pour une
Donc,
fois.
voilà, donc j'ai commencé à travailler comme ça. Et puis, plus personne disait ça de moi, il n'y en avait plus qu'une qui pensait ça de moi, c'était moi en fait. Ce qui fait que j'ai trimballé pas mal de complexes d'infériorité par rapport aux autres. Mais j'ai commencé à travailler et mon cerveau s'est remis en route en quelque sorte, puisque j'avais des gens qui me trouvaient douée, qui me trouvaient que je tapais vite, que j'étais une bonne secrétaire, etc. Et petit à petit, eh bien, j'ai évolué. La secrétaire est partie, je l'ai remplacée. Après, je me suis rendue indispensable un peu partout parce que tout m'intéressait là où j'étais, etc. Alors, je vais vous la faire courte, mais j'ai terminé. Chaque année, je montais un échelon pratiquement et j'ai terminé 20 ans après directrice du développement et de la communication du plus grand groupe de publicité mondiale. Voilà, c'est pour la faire courte, hein. Donc voilà, donc c'est ça mon parcours, c'est-à-dire que ben voilà, j'ai commencé comme ça et puis après mes classes, je les ai faites. Alors évidemment, j'ai refait un peu d'études au passage, j'ai appris l'anglais, j'ai appris ce qui me manquait quoi en fait, hein, des petits cours accélérés, voilà, pour me mettre un peu au niveau quand je galérais à certains moments. Et puis voilà, et puis j'ai quand même fait un magnifique parcours professionnel que j'ai adoré pendant quelques années. Et puis ensuite, eh ben ça a perdu un peu de sens. Donc j'ai repris des études pour changer de métier. J'avais dans l'idée d'accompagner les gens. Voilà, j'aime bien me sentir utile. Et donc là, pour le coup, j'ai fait des études à Paris 8, mais comme j'avais pas le bac, il a fallu que je valide des acquis. Et mon beau parcours m'a valu un bac plus 5 sans le passer. Voilà. Ce qui fait que à 45 ans, j'ai un bac plus 5 et je vais à l'université, je fais ces études de coaching. Donc, c'est la première fois à 45 ans que je répondais à la question qu'on me posait à 16 ans, qu'est-ce que tu veux faire? Donc là, j'ai choisi un métier. L'autre, je ne l'ai pas choisi, je suis arrivée un peu là où je pouvais. Là, j'ai dit, je veux être coach, je veux accompagner les gens. J'ai choisi mes études et là, J'ai pu éprouver comme c'est vertueux quand on choisit vraiment ce qu'on veut faire et qu'on le fait. J'ai été la meilleure de ma promo. Alors que je n'avais pas le bac ni rien, je suis sortie majeure de ma promo. Et donc, bah, voilà, j'ai un beau diplôme universitaire. Et puis aujourd'hui, je suis coach et aujourd'hui, j'enseigne aussi le coaching. Donc, j'enseigne moi-même à l'université. Et puis voilà le parcours.
Et vous êtes auteur également.
Oui, j'ai écrit des livres parce que justement, vu mon parcours, quand je me suis retrouvée face aux jeunes que j'accompagnais et qui j'ai aussi choisi d'accompagner des jeunes dans les SECPA ou en grande difficulté scolaire, pour leur montrer, alors je leur dis pas d'où je viens, des fois je le dis, mais tout chez moi dit que c'est possible, quoi. Vu d'où je viens, je pense qu'il n'y en a pas un qui va me convaincre qu'il vaut rien. Hein. Donc voilà, c'est ça que j'ai. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu aller aider ces jeunes pour incarner pour eux que tout ne se joue pas à l'école et pour peu qu'ils s'accrochent un peu, il y a peut-être un truc sympa qui les attend après l'école.
Merci infiniment, Dina. J'aimerais que vous partagiez, selon vous, quel a été le déclic, parce que vous l'avez dit, hein, vous l'avez dit rapidement, mais quel a été le déclic pour passer d'une jeune fille qui n'était pas normale dans le monde scolaire à cette jeune femme qui s'est révélée et qui a pris conscience de ses talents, de ses compétences.
Alors, je vais vous le dire, hein, parce que c'est bizarre, je ne le raconte pas souvent, mais c'est ce qui me vient. En fait, c'est la magie des rencontres. Je crois beaucoup aux rencontres. Alors, comme je n'ai pas fait beaucoup d'études, je faisais beaucoup de fautes d'orthographe. Donc, ce qui fait que à mon époque, je ne suis pas si vieille que ça, mais à mon époque, quand on passait des tests pour être sténodactylo, il fallait montrer qu'on savait taper à la machine. Donc, le premier monsieur qui m'a reçu, c'était un monsieur qui, je devais travailler avec lui. Je devais être donc la secrétaire de sa secrétaire. Mais c'est lui qui m'a fait passer le test et je me souviendrai toujours, il s'appelait Christian. Et Christian, il me dicte une lettre. Et moi, je tape, mais j'ai dû faire plein de fautes d'orthographe. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, au bout d'un moment, il me dit, écoutez, mademoiselle, j'avais été jeune, hein, pardon, j'avais 16 ans. Il me dit, excusez-moi, on va recommencer. Pardon.
Je vous en prie, Dina.
C'est l'émotion. En fait, il me regardait au-dessus de mon épaule, donc déjà, c'est pas très
Mais
agréable.
oui, bien
Mais
sûr.
il avait une bonne tête. Je sentais qu'il faisait pas ça pour m'embêter. Mais donc il me dictait, puis il regardait, et puis au bout d'un moment, il m'enlève la feuille comme ça, il l'arrache de la machine. C'était pas encore des ordinateurs. Et il me dit, écoutez, on va la refaire si vous voulez bien, excusez-moi. Et puis, donc, il me redicte la même lettre, mais en prononçant chaque mot, mais vraiment que les amis, ben, je te vois, il fallait vraiment, voilà, comme s'il voulait m'aider à bien écrire, en fait. Et donc, ben, je l'ai refaite, et puis il m'a dit, ben, c'est super, vous pouvez commencer quand? Donc, je suis tombée sur quelqu'un qui n'a pas regardé. En fait, j'ai cru qu'il avait eu pitié de moi, mais pas du tout, parce que plus tard, je lui ai posé la question. Donc, il m'a embauchée, et c'est lui qui m'a fait démarrer. Et un jour, je lui ai dit, pourquoi tu as fait ça? Et il m'a dit, ben écoute, il avait vu en moi la jeune fille, ben, il avait vu quelque chose que je ne savais pas que j'avais encore. Il me trouvait souriante, volontaire. Il m'a dit, tu étais droite sur ta chaise. Je l'avais un peu, voilà, il avait été ému par cette jeune fille volontaire, souriante, qui avait l'air d'avoir envie. Mais moi, je ne me voyais pas du tout comme ça. Et donc, voilà, il s'est dit, ben on va l'aider, quoi. Et ce qui fait qu'après, il relisait beaucoup mes choses parce qu'il savait quand même qu'il fallait qu'il m'aide un peu. Donc, il a pris du temps quand même. Voilà, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un de formidable qui a été un peu patient au début pour me mettre le pied à l'étrier un petit peu et pas pour m'abaisser à faire des fautes ou des choses comme ça. Et ensuite, quand sa secrétaire est partie, il m'a proposé le poste. Et puis ensuite, bah, il m'amenait un peu partout. Il prenait du temps à m'expliquer ce qu'il faisait. Enfin, c'est juste une rencontre extraordinaire que je souhaite à tout le monde. Mais j'appelle ça un peu le regard Pygmalion, c'est-à-dire, bah, il a vu ce que j'avais plutôt que ce que je n'avais pas. Il aurait pu dire, ben non, elle fait des fautes, c'est pas possible. Ou non, il a vu plutôt, mais j'avais quand même, il a vu des choses que j'avais. Il m'a dit, quand j'avais envie de te voir tous les jours au travail, parce qu'il m'a dit, voilà, tu avais envie, moi j'aime les gens qui ont envie, qui sont enthousiastes. Et je me suis dit, ben ok, ça va me faire un peu plus de travail pour moi, mais je l'apprends. Voilà, donc aujourd'hui, je suis quelqu'un comme lui. C'est-à-dire que pendant mes 20 ans de publicité, j'ai beaucoup embauché de gens à qui j'ai fait confiance et qui n'étaient pas les meilleurs choix au départ. Vous voyez, c'est très vertueux ça. Quand on a reçu ça, on est capable de redonner ça. Et donc j'ai donné de la chance à beaucoup de gens parce qu'il m'a donné ma chance. Donc voilà, je crois, je sais pas si j'ai répondu à la question.
Mais bien
Je
sûr.
pense que ce qui m'a permis de, vous savez, les regards. Sur nous, un regard arrogant, genre elle est nulle, etc., où on pose un regard d'amour. Moi, j'appelle ça l'œil d'amour. Donc, l'œil d'amour, c'est un antidote au regard arrogant. Donc, il faut se relier au regard d'amour pour se soigner des regards arrogants. Un regard d'amour soigne cinq regards arrogants, vous voyez. Celui-là, il m'a soigné tous les regards que j'avais eus avant à l'école. Donc, c'est ça l'idée, c'est être conscient, parce que des fois, on les voit pas, ces gens sympas, ceux qui nous accordent de la valeur. C'est comme si c'était normal. Non, c'est pas normal. C'est magnifique ce qu'il a fait pour moi.
Non,
J'ai pas
merci
eu le temps,
beaucoup, Dina.
malheureusement. J'ai réalisé trop tard. Parce que moi, là, je peux en parler aujourd'hui, mais j'ai réalisé très tard l'importance qu'il a eue dans ma vie. Donc, j'ai pas pu lui dire merci, en fait, parce qu'il était plus là.
D'accord, Dina.
Donc, voilà. Donc, l'importance des regards, parce qu'il y a des gens formidables.
Merci beaucoup. Vous êtes inspirante. Votre parcours donne espoir. Merci beaucoup. Vraiment, c'est un merci qui est sincère. J'ai deux autres questions parce que vous avez répondu. J'avais des
Oui,
questions,
mais
mais
bien sûr.
vous y avez répondu bien avant.
Ben,
Donc,
c'est pas
merci
grave.
beaucoup. Quel est le conseil ou quels sont les conseils que vous pourriez donner, que vous pouvez donner à un jeune ou à une jeune qui n'a pas d'espoir pour la construction de son avenir, un jeune qui est en perte de repères.
Alors, ben, le conseil, il est toujours au niveau des, enfin, déjà de, je dirais de. D'être très attentif, parce que à l'école, il y a toujours un prof qu'on aime un peu mieux, il y a toujours être attentif à ceux, plutôt que d'être bloqué sur ceux qui nous dégradent, entre guillemets, être guetter ceux qui, au contraire, enfin, s'accrocher au regard d'amour. Enfin, par exemple, même avant de rencontrer Christian, ma mère avait ce regard d'amour sur moi. Moi, je savais qu'en rentrant chez moi, je savais que c'était ça la vraie vie, c'était plus ça la vraie vie que celle que j'avais à l'école. Donc voilà, savoir que en fait c'est qu'un espace. Il y a plein d'autres espaces où ils vont briller en fait. Celui-là, il est un peu obligé malheureusement. C'est un espace un peu obligé. Moi, je savais pas ça. Moi, je pensais que toute ma vie allait être comme ça. Et heureusement, quand je suis arrivée dans le travail, ça n'a pas été comme ça. Mais j'aurais pu tomber sur quelqu'un d'horrible aussi, hein. Donc non. Donc il y a plein d'espaces. Et il y a des espaces où, heureusement, on va être remis dans la lumière et on va apprécier qui on est, on va nous accorder de la valeur. Et là, ça va effacer, c'est un peu comme sur le sable, vous voyez, ça va effacer toutes les marques. Voilà, donc en tout cas, moi, cette première expérience professionnelle a donné une toute autre couleur à ma vie, en fait. Voilà, donc être très sensible, bah, de profiter et d'être conscient que c'est un de leurs espaces, mais il y en a plein d'autres qui vont expérimenter où ils seront beaucoup plus heureux, comme chez eux sûrement, comme ailleurs. Enfin voilà. Souvent quand ils vont en stage, les jeunes ils sont bien, hein, ils font des beaux stages, etc. Donc parce qu'ils voient que voilà, ils se donnent à fond et ils ont l'occasion de montrer autre chose. Voilà. Et c'est pas parce qu'on n'a pas réussi à l'école qu'on peut pas réussir dans la vie, ça c'est clair. D'ailleurs, il y a de magnifiques exemples de gens qui ont. Parce que souvent, on me dit oui, mais c'était possible de votre temps, comme si j'étais née à la préhistoire. Mais non, je crois encore beaucoup à ça, que on peut se réaliser sans forcément avoir fait de grandes études. Voilà. Donc, qui
Je
s'accroche
partage.
et voilà, la roue tourne. Heureusement, la vie est longue et la roue tourne. Faut pas perdre espoir.
Merci beaucoup, Dina.
Voilà le conseil que je donnerai aux jeunes. Alors, je sais pas s'il faut en donner un aux parents, mais parce que
Je
les parents aussi, il faut qu'ils
vous
prennent soin.
écoute.
Moi, je pense que le conseil que je pourrais donner aux parents, c'est vraiment de, parce que même les parents, sans le vouloir, parce que moi-même, j'ai 3 enfants et il est pas rare, enfin, quand elles étaient petites, il était pas rare que je dise une, elle est comme ça, l'autre, elle est plutôt timide, l'autre, voilà. De ne pas réduire, de faire très attention à la manière dont on présente ses enfants. Parce que ça peut les réduire à, voyez, quand on dit les matheux. Donc, c'est comme si on voulait lui faire plaisir, mais des fois, ça empêche d'être créatif ou autre chose. Donc, d'honorer, d'entrer leur côté multi-histoire. C'est-à-dire, oui, il aime les maths, c'est vrai, mais il aime aussi vachement le sport, il fait ci, il fait ça, voilà. C'est de ne pas les enfermer dans une de leurs histoires, qui fait que, ben, si on dit à une qu'elle est timide, elle va l'entendre quelques années de sa vie, puis après, elle va se construire avec une histoire de timidité, par rapport à ses autres frères et sœurs. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai une pratique, c'est pour ça que j'aime ma pratique, qui est d'honorer le côté multi-histoire des gens qu'on accompagne. On écoute l'histoire qu'ils nous racontent, mais on la réduit pas à ce qu'ils nous racontent. Il faut que notre curiosité s'intéresse à toutes leurs histoires tout le temps. OK, là, il n'a pas de boulot, mais il est le père de quelqu'un, le frère de quelqu'un, il a des valeurs, il est, voyez, c'est, voilà, faut s'intéresser à toutes les histoires, et c'est la richesse de toutes ces histoires qui font ce qu'on est, en fait, pour pas s'enfermer dans une de ces histoires. Voilà, donc les parents en premier lieu, parce que c'est important, voilà, qu'au moins dans un espace, ils se sentent reconnus dans ce qu'ils font de bien, etc. Et puis aussi, peut-être ce conseil, parce que j'accompagne à des endroits où parfois les enfants sont pas très assistés au niveau des devoirs, etc., parce que les parents travaillent beaucoup, ou qu'ils ne parlent pas français ou autre, mais aider ces enfants et s'intéresser à ce qu'ils font, c'est pas forcément les aider dans les devoirs. Moi, par exemple, j'ai jamais pu aider mes enfants à faire leurs devoirs, vu que j'avais pas fait. J'étais vite dépassée par leurs études, parce que j'en avais pas fait autant. Mais par contre, ça m'empêchait pas de m'asseoir à côté d'eux et puis de rester là et moi de faire autre chose pendant qu'ils se sentent pas seuls dans ce qu'ils font. Moi, ma mère pouvait pas non plus parce qu'elle avait pas fait d'études, donc elle pouvait pas m'aider. Mais je me souviens toujours de qu'elle s'intéressait. Elle voulait absolument qu'on lui raconte ce qu'on avait fait, même si elle comprenait rien. Elle s'asseyait à côté de nous. Quand je lui disais que j'avais fait une dictée, elle me disait, tiens, tu veux bien me la refaire la dictée, comme ça moi aussi je vais apprendre à pas faire de fautes. Voyez, elle s'intéressait, mais je sais qu'elle le faisait pour nous, alors que moi je faisais plein de fautes, je lui faisais faire une dictée, voyez. Mais c'était sa manière de s'intéresser à ce qu'on fait, et des fois ça suffit, quoi. C'est bien plus important que c'est à l'école de leur apprendre les matières, c'est pas à nous. Mais nous, ce qu'on peut, c'est ne pas les laisser seuls dans la chambre à faire leurs devoirs alors qu'ils n'ont pas envie. C'est juste d'être là, de leur poser quelques petites questions, etc. Moi, j'ai retenu ça. Moi, ça m'a beaucoup plu que. Moi, j'ai pas pu aider mes enfants, mais j'ai été très présente d'une certaine manière. Je m'intéressais beaucoup à ce qu'ils faisaient.
Merci beaucoup, Dina. Est-ce que, et si vous aviez un mot de fin, quel serait-il?
Alors sur ces jeunes, sur quoi?
Votre mot.
Oh, moi je trouve que franchement, je trouve que enfin, je sais pas comment dire. Bah, c'est un peu mon mantra que je vais vous dire pour la fin. Pour moi, le monde appartient à tout le monde. Et si tout se passe bien, chaque individu doit trouver sa place, en fait. Je pense qu'il y a une place pour chacun d'entre nous dans le monde. Il faut qu'on trouve la sienne. Et ces jeunes, ils vont trouver leur place, comme j'ai trouvé la mienne. Moi, j'ai d'abord été dans la pub, ça m'a plu un moment, j'ai pu grandir et me guérir dans ce métier. Mais après, à 45 ans, j'ai refait des études et j'ai retrouvé. Et aujourd'hui, je suis très heureuse du métier que je fais. Il n'y a pas rien n'est figé, quoi. Il y a une place pour chacun d'entre nous et puis un jour on la trouve, quoi. Et puis des fois on met un peu de temps pour la trouver, mais c'est pas grave, on perd pas son temps, on apprend entre-temps, on guérit, on apprend et on découvre le monde, mais voilà. Donc c'est ça que j'ai envie de dire.
Merci
Qu'est-ce que vous en pensez,
infiniment.
Lucie? Vous y croyez vous aussi?
Je partage tellement ce que vous dites, tellement sur le fait que la construction de l'identité se fait au travers du regard ou des regards
Oui,
de notre
j'y
environnement.
crois beaucoup.
que effectivement les rencontres font partie du parcours et de l'évolution, que le fait que une place à un moment donné, à un instant T, peut être une autre plus tard, et que ce que vous dites, je le partage vraiment parce que moi-même je l'ai vécu. Donc c'est pourquoi ça m'émeut. Ça m'émeut parce que nous sommes effectivement en capacité de pouvoir avoir ce regard d'amour.
Merci, merci Lucie.
Merci à vous.
Merci bien.
Je vous souhaite une excellente continuation, Dina.
OK, et puis à bientôt, j'espère.
À très très bientôt. Merci beaucoup.